part ça, nous sommes heureux de partager ce culte avec vous ce matin et que le Seigneur nous bénisse ensemble. À la fin de son deuxième voyage missionnaire, après un séjour d'un an et demi à Corinthe, Paul fait un détour par Éphèse. Il s'entretient avec les Juifs qui l'écoutent mais ne consentent pas à rester dans cette ville en affirmant « Je reviendrai vers vous si Dieu le permet » Actes 18-21. Effectivement, deux ans plus tard, Paul va séjourner dans cette ville et il va y rester trois ans. À cette époque, Éphèse était une cité prospère de 250 000 habitants, véritable joyau de l'Antiquité et fut l'une des villes les plus puissantes à l'époque romaine. Bien sûr, les pratiques occultes et païennes y étaient florissantes. Elle était connue, Éphèse, pour le culte rendu à Diane, et Éphèse était empreinte d'un profond paganisme et d'une immoralité extrême. Diane est une très ancienne divinité identifiée par les Romains à Artémis. Le temple d'Artémis était implanté à Éphèse. C'était l'une des sept merveilles du monde. C'est un temple dédié à cette déesse Artémis, déesse de la chasse, de la pureté, déesse de la lune qui était jumelle avec Apollon. Le temple d'Éphèse était somptueux et a été acheté en 460 avant Jésus-Christ, en Asie mineure, donc dans l'actuelle Turquie. Ce temple est aujourd'hui réduit à quelques vestiges de colonnes. Ce temple est également considéré comme un des premiers établissements bancaires au monde. Le sanctuaire disposait de ses propres finances et faisait fonctionner. En lisant le chapitre 19 du livre des Actes, on peut relever trois événements que Paul a vécu à Éphèse. Le premier événement, c'est la pénétration de l'Évangile à Éphèse. Le terrain était défriché par Apollos, un homme versé dans les Écritures, mais qui ne connaissait que le baptême de Jean-Baptiste. C'est ainsi que Paul, arrivant à Éphèse, rencontre une douzaine de disciples baptisés du baptême de Jean, mais qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Paul fait le nécessaire pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et ensuite, Paul entre dans la synagogue où il parle librement pendant trois mois. Puis, Paul va enseigner chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus pendant deux ans. Deuxième événement qui a marqué le séjour de Paul à Éphèse, c'est la contrefaçon de l'Évangile. En Actes 19, les versets 13 à 16 nous disent ceci, « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur tous ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche, ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séba, juifs d'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. La troisième chose qu'on peut souligner par rapport au séjour de Paul à Éphèse, c'est qu'il y a eu un grand trouble à propos de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, qui était orfèvre et qui fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable, a réagi à la prédication de Paul qui enseignait à renoncer aux idoles. Alors cet homme, Démétrius, rassemble les gens du même métier et dit « Oh, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. L'événement tourne à l'émeute, la manifestation s'organise, La colère gronde, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, le désordre règne dans l'assemblée, et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis. Alors, il n'y avait pas de téléphone mobile à cette époque, pas de réseaux sociaux, mais le bouche à oreille fait son effet, et une foule se rend au théâtre, 25 000 places, pour crier pendant 2 heures, grande est la Diane des Éphésiens, grande est la Diane des Éphésiens, grande est la Diane des Éphésiens. Et parce qu'il y a cette émeute, il faut que le secrétaire de la ville, un homme important à Éphèse, intervienne pour dire aux hommes éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple et de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel. C'est dans ces circonstances difficiles que doivent vivre les nouveaux convertis de l'église d'Éphèse. Il y a une certaine similitude entre ce qui est vécu à Éphèse et ce qui est vécu aujourd'hui. On voit souvent les gens descendre dans la rue pour manifester leur mécontentement. 5 ans plus tard, Paul va écrire une lettre aux chrétiens d'Éphèse pour les encourager à y rester fermes dans la foi. Il est probablement en prison à Rome lorsqu'il écrit cette lettre, et j'aimerais ce matin attirer votre attention sur une déclaration de Paul dans cette lettre aux Éphésiens. Alors lisons ensemble Éphésiens 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 32. Éphésiens 4, 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Il y a 2 versets de ce chapitre qui me poursuivent depuis un certain temps. Versets 17 et 18. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Retenez cette phrase, ils ont l'intelligence obscurcie. D'autres versions disent que leur intelligence est dans la nuit. Ils sont pleins de ténèbres dans leurs pensées. Ils sont enténébrés dans leurs pensées, que leur pensée est obscurcie. Et je me suis dit, en lisant ma Bible, de quoi s'agit-il et de qui s'agit-il? Et j'ai essayé de réfléchir à cette déclaration de l'apôtre Paul, et je souhaite partager avec vous simplement le fruit de ma réflexion. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. À l'heure actuelle, on pourrait classer le mot intelligence en trois catégories. L'intelligence naturelle, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, et l'intelligence spirituelle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Parlons de l'intelligence naturelle. Dans le passé, depuis la création, l'être humain est doué d'une intelligence exceptionnelle. L'Éternel Dieu a fait don à Adam d'une intelligence telle qu'il était capable de donner un nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, et même il a donné des noms aux étoiles et aux planètes. Quelle intelligence! Dieu a donné l'intelligence à Noé pour construire son arche. Dieu a donné l'intelligence à Bessaël, Ololiab et d'autres hommes habiles pour construire le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bessaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des interventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes de bois. » On se dit, à l'époque, il n'y avait pas les moyens modernes de fabrication des objets, et ils étaient doués d'une intelligence incroyable. Ce qu'on appelle le temple de Salomon était un édifice somptueux. Dieu donna à Salomon de la sagesse et une très grande intelligence et des connaissances multiples, comme le sable qui était au bord de la mer. Bon, c'est vrai que Salomon n'était pas tout seul. Il avait à sa disposition pour construire ce temple 70 000 hommes qui portaient les fardeaux, 80 000 qui taillaient des pierres dans la montagne, sans compter les chefs au nombre de 3300 préposés par Salomon pour les travaux, pour surveiller les travaux. Les hommes extrêmement doués. À titre de comparaison, la Migros emploie 106 000 personnes. En dehors du peuple de Dieu, l'homme a fait preuve d'une intelligence remarquable au cours des siècles. Pour exemple, les sept merveilles du monde antique sont le résultat d'une intelligence remarquable. On reconnaît à Léonard de Vinci d'être un génie, doué d'une intelligence supérieure. Johannes Gutenberg est l'inventeur de l'imprimerie. Louis Pasteur a découvert le vaccin contre la rage. Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre. Et que ferait-on sans ampoule électrique si Edison ne l'avait inventé? Et on pourrait multiplier toutes ces inventions. Cette intelligence est un don du Créateur. Parce que, je l'affirme, tout vient de lui. Tout vient de lui. L'homme n'a aucune raison de se vanter de ce qu'il fait, de ce qu'il découvre ou qu'il invente. C'est Dieu qui lui donne l'intelligence et la capacité, qu'il soit croyant ou non. Job s'interrogeait en disant, d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous ses yeux. Aujourd'hui, par l'intelligence naturelle que Dieu donne aux êtres humains, l'homme ne cesse d'inventer, de construire, de découvrir des choses. Et c'est extraordinaire. Si on réfléchit, quand on voit des machines qui fonctionnent, pensez aux imprimeries qui font les journaux. Vous voyez ces machines, ça défile. Mais c'est incroyable l'intelligence des hommes pour faire cela. Et ça marche. Certaines inventions, servent au bien de l'humanité, à la guérison des malades, à faciliter la vie quotidienne, à découvrir aussi les merveilles de Dieu. Dans le domaine artistique, on peut également s'émerveiller des œuvres réalisées. D'autres inventions servent à blesser, à détruire, à meurtrir, à tourmenter des enfants, des jeunes, des adultes, des vieillards. Presque chaque jour, les médias font écho de nouvelles découvertes. L'autre jour, on nous a montré des photos exceptionnelles du soleil. On n'a jamais vu ça. Vous vous rendez compte de l'intelligence de l'être humain? On entend souvent parler des exoplanètes, ce qui a valu le prix Nobel de physique à Michel Mayor, Didier Queneau, qui sont professeurs à l'Université de Genève. Nous pouvons admirer et récompenser toutes les personnes qui, par leur intelligence, leur savoir, leur travail, apportent de bonnes choses à notre société. Mais il y a un revers à la médaille. Au temps de Paul, en provoquant une émeute, les Éphésiens ont montré à quel point leur intelligence était voilée. Grande est la Diane des Éphésiens. La majorité des personnes éminentes de notre monde, hélas, ne craignent pas Dieu. Que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine politique, artistique, philosophique ou éthique, peu de personnes craignent Dieu, le Créateur de toutes choses. L'Éternel n'est pas pris en compte dans les découvertes, les déclarations, les recherches. C'est pourquoi certaines affirmations des êtres humains sont discutables, voire même d'une tromperie. À regret, nous devons considérer, comme l'apôtre Paul l'est décrit dans Éphésiens 4, que l'homme sans Dieu, les hommes sans Dieu sont des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. C'est terrible ce constat, mais nous ne pouvons pas l'éviter. Le créationnisme et la théorie de l'évolution font couler beaucoup d'encre dans les milieux de l'éducation. Et je vais vous donner deux citations qui montrent à quel point les magistrats peuvent avoir l'intelligence obscurcie. C'est un conseiller national qui disait ceci, je dirais, on est mauvais chrétien si on suit des cours de créationnisme. Et les gens qui enseignent cela ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens. Jacques Lérinck, conseiller national PDC, il a dit cela en 2014. Et puis votre ministre de l'Éducation de Genève dit, si on est dans le cadre de cours de sciences, il faut être clair, c'est la théorie de l'évolution. On ne peut pas présenter le créationnisme comme une hypothèse parmi d'autres. Ce n'est pas possible, Anne Emery Thorasental. Chaque fois que des personnes tiennent des propos contraires à Dieu, contraires à sa parole ou à ses commandements, ils montrent que leur intelligence est obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Revenons à Job. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents, Ésaïe 5:21. Nos parlementaires, malheureusement, proposent de plus en plus de lois qui sont contraires à la parole de Dieu. En février dernier, le peuple suisse a approuvé par un vote la norme anti-homophobie. Et un parlementaire a dit ceci, la norme anti-homophobie est un signal magnifique pour toutes les personnes concernées. Plus récemment, on le sait, les chambres fédérales ont ouvert la porte au mariage pour tous, qui est contraire à la parole de Dieu. Dans un journal suisse-allemand, le journaliste a dit, il y a 80 ans, l'amour entre personnes du même sexe était interdit. Il y a 30 ans, il était restreint. Bientôt, nos descendants se souviendront de l'époque où il était interdit aux couples d'hommes et de femmes de se marier. Encore Job, qui dans sa sagesse disait, « Dieu enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. » D'autres passages du Nouveau Testament, nous constatons combien l'intelligence de l'homme est obscure. Et tout cela prépare gentiment l'avènement de celui que Paul appelle l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Tout cela, chers frères et sœurs, prépare un jugement terrible qui va tomber sur cette humanité, pire que Covid-19. L'apparition de cet impie, nous dit les Thessaloniciens, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. De Thessaloniciens, le 9 à 11. Je pense que tous ces événements, et je pense que ça vous a fait aussi réfléchir de voir cette pandémie atteindre notre planète, je crois que tous ces événements doivent stimuler notre attention et exercer notre discernement, nous chrétiens. L'avertissement de Pierre est solennel dans 2 Pierre 3. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Deuxième pensée, on en parle de plus en plus, l'intelligence artificielle. IA. L'intelligence artificielle vise à permettre à des machines, et plus particulièrement à des systèmes informatiques, de simuler les processus cognitifs humains. Le processus cognitif humain est un processus par lequel un être humain acquiert des connaissances sur son environnement. L'intelligence artificielle va acquérir des données et des connaissances qu'on lui transmet à travers l'informatique. Alors, chers frères et sœurs, si vous pensez que l'intelligence artificielle ne vous concerne pas, vous vous trompez lourdement. Nous sommes déjà dépendants dans bien des domaines de l'intelligence artificielle. La fonction vocale fait partie de notre quotidien. Les enceintes intelligentes qui commandent les voitures font partie du phénomène de l'intelligence artificielle. Certaines applications de traitement informatique du langage naturel intègrent désormais des fonctions de traduction automatique, de reconnaissance vocale, d'analyse des sentiments. Les appareils à commande vocale sont fondamentalement basés sur l'intelligence artificielle, vouée à transformer toujours plus nos interactions quotidiennes. L'IA s'applique à tous les secteurs d'activité. Au domaine des transports, vous avez vu, maintenant, il y a des bus dans les villes. À Sion, il y a un bus dans la ville, il y a beaucoup de chauffeurs. La santé, l'énergie, l'industrie, la finance, on découvre maintenant de plus en plus de véhicules autonomes, des contrôles intelligents. Dans la navigation, vous avez sûrement un GPS dans votre voiture. C'est l'intelligence artificielle. Dans la santé, l'imagerie médicale, scanner, IRM, apporte une révolution dans la médecine. Et puis les moteurs de recherche, les toutes sortes de choses font partie de cela. Vous connaissez Elon Musk, le constructeur de ces magnifiques voitures Tesla. Il travaille sans relâche pour développer des intelligences artificielles de plus en plus élaborées. Le milliardaire, que l'on surnomme Iron Man, s'est exprimé à Dubaï en février 2017. Selon lui, l'homme devra fusionner avec la machine pour survivre à l'intelligence artificielle. En effet, les machines traitent 100 millions de fois plus de données que l'homme en une seconde. La vieille peur de voir un jour la machine prendre l'ascendant sur l'homme devient dès lors une perspective probable. Pour Musk, le risque que l'IA devienne plus intelligente que le plus intelligent des hommes et mette en péril sa survie de l'humanité. Et ici, au fil des temps, je pense que nous allons probablement voir une fusion plus proche de l'intelligence biologique et de l'intelligence numérique. Une interface entre le haut débit et notre cerveau permettra de réaliser une symbiose entre l'homme et l'IA et résoudre le problème de contrôle et de celui de l'utilité. Cela va se produire beaucoup plus vite que vous l'imaginez. Alors l'intelligence artificielle questionne aussi le chrétien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Premièrement, il faut se souvenir que le message de l'Évangile se fonde sur l'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. La relation de Dieu à l'homme n'est pas numérique, elle n'est pas digitale, elle est gérée, elle n'est pas gérée par une intelligence artificielle, elle est spirituelle et vivante. Élise Perrier, qui est co-rédactrice de la revue Réformée, un journal protestant, dit « L'intelligence artificielle est une avancée extraordinaire. Mais les chrétiens, par leur message et leurs valeurs, ont un rôle à jouer dans l'orientation prise par ces technologies, afin qu'elles soient au service de l'humanité et non un outil d'asservissement des plus faibles. » Où est-ce que cela va aboutir? Verra-t-on bientôt des pasteurs robots dans les églises? Pour fêter les 500 ans de la réforme protestante, un pasteur allemand a installé dans son église un robot pasteur capable de bénir les fidèles. L'initiative doit lancer le débat sur l'évolution des mœurs religieuses. Le robot accorde une bénédiction choisie par le croyant grâce à un écran tactile. Il peut s'exprimer en cinq langues, réciter des versets bibliques, peut imprimer ses mots et termine ses interactions par « Dieu vous bénisse et vous protège ». Plus étonnant, lors d'une bénédiction, il lève les bras et met une lumière blanche avec ses mains, tandis que ses sourcils bougent. Au Japon, vous pourrez rencontrer une version du robot Piper spécialisée dans les funérailles bouddhistes. Aux États-Unis, un ancien ingénieur de Google a créé une église préparant l'avènement d'un dieu intelligent, d'un dieu d'intelligence artificielle qui viendra sauver les âmes. On en est là. Tout cela peut être effrayant. La question se pose, les scientifiques éveillent la curiosité, est-ce que l'IA va remplacer l'être humain? Tout s'accorde pour dire que cela va changer pas mal de choses dans le monde du travail et dans notre quotidien. Nous, chrétiens, nous ne devons pas craindre l'avenir. L'avenir est dans les mains de Dieu. Restons fermement attachés à la parole de Dieu, la vérité. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Voilà ce que je crois. Et troisième pensée, l'intelligence spirituelle. Je déclare, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. David avait fait cette demande à Dieu pour son fils, « Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. » Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et de le temps où il chercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Et encore Job, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence qui appartiennent. L'intelligence spirituelle concerne le rapport de l'homme avec Dieu. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Proverbe 27. Dans l'Ancien Testament, l'intelligence spirituelle est accordée au peuple d'Israël, à ses sacrificateurs, à ses prophètes. Elle est consécutive à l'obéissance au commandement divin. Dans Deutéronome, nous lisons, « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. » Qui entendront parler de toutes ces lois. Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Sous la nouvelle alliance, par le sacrifice de Christ et son sang versé, une nouvelle vie commence pour celui qui croit. Vous faites partie de ceux-là, j'imagine, puisque vous êtes dans un lieu où on célèbre un culte évangélique. Au moment de notre conversion, Jésus-Christ et le Saint-Esprit viennent habiter le cœur du croyant qui devient le temple de l'Esprit-Saint. À partir de ce moment, Dieu accorde à son enfant l'intelligence spirituelle. Par la lecture et la méditation de la parole de Dieu, cette intelligence va grandir, se développer dans le croyant pour atteindre la maturité spirituelle. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Osée 14, 10. Désormais, j'espère que vous le faites, et c'est important, nous regardons toutes choses à travers le regard humain et la lumière de l'intelligence spirituelle révélée dans la parole de Dieu. Ce n'est plus le point de vue des hommes, quel qu'il soit, qui influence ma vie, mes comportements, mes décisions. Mais c'est le point de vue de l'Éternel Dieu qui nous révèle sa pensée dans sa sainte parole, la Bible. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Épître de Jude. Notre attitude dans le monde, et c'est ma conclusion, consiste aujourd'hui à rejeter tout ce qui provient de l'intelligence naturelle obscurcie, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à Dieu. À recevoir la sagesse d'en haut pour vivre en chrétien dans un monde envahi par cette intelligence artificielle et agir en toutes circonstances à la lumière de l'intelligence spirituelle révélée par la parole de Dieu. Amen.
Samy, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant, super. Alors, ce qu'on a commencé depuis quelques mois, puisque les cultes vont un petit peu plus rapides qu'autrefois, c'est que quand on a du temps, on est bien avoir un temps de questions-réponses. Ça marche? D'accord?
Alors,
ça prend une quinzaine de minutes, d'accord, pour terminer.